Dans le livre d'Éphésiens. Pardon? L'Épître aux Éphésiens. Il y a deux choses qui font beaucoup de dégâts psychologiques et émotionnels chez une grande majorité des gens, et c'est peut-être le cas de certaines personnes ici présentes ce matin. La première chose, c'est la culpabilité, et la deuxième chose, c'est l'amertume. La culpabilité nous emprisonne, oui, et l'amertume nous empoisonne. Et la réponse face à la culpabilité et à l'amertume, eh bien, c'est le pardon. La culpabilité est le résultat ou la conséquence de quelque chose que nous avons fait de mal ou que nous pensons avoir fait de mal. L'amertume est notre réaction ou notre ressenti face à quelqu'un qui nous a fait du tort. Et la culpabilité et l'amertume nous maintiennent captifs. Et la seule chose qui peut nous libérer, de la culpabilité et de l'amertume, c'est le pardon. Le pardon de Dieu nous libère de la prison de culpabilité dans laquelle nous nous trouvons. Et le pardon que nous accordons aux autres nous libère de la prison de l'amertume qui gangrène notre vie. Je vous invite donc à tourner avec moi dans Éphésiens chapitre 4. Verset 31-32, ce sera la première partie des messages que nous terminerons la semaine prochaine. Paul s'adresse à une église ici, il s'adresse donc à des chrétiens, et il leur rappelle ceci, versets 31 et 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. En d'autres mots, Paul est en train de dire ceci, chassez de vous tout sentiment amer, chassez de vous toute espèce d'irritation, chassez de vous toute colère. Éliminez les cris et les insultes, abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez au contraire, et je le répète, soyez au contraire, bons et pleins d'affection, compatissants pleins d'affection les uns pour les autres. Pardonnez-vous réciproquement. Pourquoi? Parce que Dieu vous a pardonné. Et frères et sœurs, ces deux versets ne sont pas une mission impossible à réaliser pour ceux qui se disent chrétiens, parce que quand on est animé de l'Esprit de Dieu, quand on est né de nouveau, qu'on a reçu cet Esprit, eh bien, tout est possible à celui qui croit. On est capable d'accorder notre pardon à ceux qui nous ont fait du mal, à ceux qui nous ont blessés, à ceux qui nous ont démolis. On est capable d'accorder notre pardon à ces gens-là. Et on va voir pourquoi tout au long de ce message. En attendant, je vous invite à prier. Prions. Seigneur, étant conscient que tu es dans ce lieu ce matin, nous ne voulons pas dire n'importe quoi. Seigneur, nous nous plaçons sous ton regard, en sachant que ton Esprit, Seigneur, est au milieu de nous et qu'il veut agir dans la vie de tous et chacun ici présent, sans exception ce matin. Seigneur, nous reconnaissons que c'est une grâce d'avoir cette liberté d'être dans un pays où nous pouvons nous réunir, Seigneur, dimanche après dimanche, pour entendre ce que l'Esprit a à dire à son Église. Seigneur, ce matin, nous voulons que tu nous rappelles, à travers ce pardon, combien tu nous as aimés en sacrifiant la vie de ton propre Fils, afin que nous puissions avoir cette espérance et l'assurance de passer l'éternité dans ta présence. Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas entendre les paroles d'un homme, mais que tu parles à travers cet homme et que tu puisses bénir tous et chacun présent dans ce lieu. Et c'est au nom de Jésus que nous t'en prions, en toute humilité. Amen. Chers amis, lorsque vous pardonnez à quelqu'un, c'est-à-dire du plus profond de votre cœur, vous libérez deux personnes. Lorsque vous pardonnez à quelqu'un du plus profond de votre cœur, vous libérez deux personnes. La première personne, c'est celle à qui vous avez pardonné. Et la deuxième personne, c'est vous-même. Pardonner signifie en fait payer une dette. Le pardon ne se négocie pas. De dire à quelqu'un, si tu veux que je te pardonne, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, il faut que tu me donnes ceci, il faut que tu me donnes cela. Ça ne s'appelle pas pardonner, ça s'appelle faire du chantage. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous a laissé ces paroles dans le Notre Père. Pardonne-nous la dette que nous avons envers toi, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui ont une dette envers nous. Le péché est une dette que nous devons. Nous avons péché contre le ciel, nous avons péché contre le royaume de Dieu. Nous avons été poursuivis pour dommages et intérêts, et il est écrit que nous ne pouvions pas payer cette dette. Voilà pourquoi Dieu, dans sa bonté, voilà pourquoi Dieu, dans sa miséricorde et dans son amour, nous a pardonné et a payé notre dette. Frères et sœurs, il n'y a pas de pardon qui ne coûte rien. Il n'y a pas de pardon qui ne coûte rien. Lorsque quelqu'un est pardonné, c'est parce que quelqu'un d'autre a payé. Par exemple, si Paolo me doit 1000 euros, n'oublie pas Paolo, 1000 euros, et qu'il me dise, « Pasteur, je ne peux pas payer », et que je réponde, « OK, Paolo, je te pardonne, parce que tu ne peux pas me payer », à partir du moment où je dis cela, qu'est-ce que cela vient de me coûter? Ça vient de me coûter 1000 euros. En lui pardonnant, je viens d'effacer sa dette. Le pardon coûte toujours quelque chose. Pardonner signifie payer la dette de quelqu'un. Le mot pardonner vient d'un mot qui signifie littéralement, d'un mot grec qui signifie littéralement porter le fardeau. Lorsque le Seigneur nous pardonne, est-ce qu'il paye un prix? Lisons ce que Paul dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, nous sommes délivrés du mal par son sang versé sur la croix, et nos péchés sont pardonnés selon la richesse de sa grâce. Dieu, dans sa bonté, Dieu, dans sa miséricorde et dans son amour, nous a pardonnés. Et regardez le prix que ça lui a coûté, dit l'apôtre Paul. Il a payé notre dette au prix du sang de son Fils Jésus-Christ. Pour pardonner nos péchés, Dieu, ça a coûté cher à Dieu. C'est pas que Dieu a dit, ça me dérange pas, moi, allez, je pardonne à tout le monde. Dieu savait qu'il devait payer un prix selon la loi. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et pour pouvoir récupérer notre vie, nous faire entrer dans le royaume de Dieu, il y a quelqu'un qui devait donner la sienne. Et c'est Dieu qui se fait homme et qui vient donner sa vie pour que vous puissiez bénéficier de la vie éternelle, du pardon de Dieu. Le pardon, je le répète, coûte toujours un prix. Amen. Selon la richesse de sa grâce, dit Paul, il a payé lui-même la dette. Par conséquent, en payant lui-même la dette, il a annulé la dette que nous lui devions par rapport à nos péchés. C'est la raison pour laquelle nous disons que le salut est une grâce. À chaque fois que vous accordez votre pardon, à chaque fois que Dieu nous accorde son pardon, c'est une grâce qu'il nous fait. Il n'était pas obligé de le faire. Et vous n'êtes pas obligé de le faire, mais parce que vous êtes animé de l'Esprit de Jésus-Christ, ayant été pardonné en Jésus-Christ, vous comprenez que vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas pardonner à votre tour. Lorsque vous êtes venu au Seigneur et que vous avez dit, « Seigneur, je suis un pécheur, je reconnais que j'ai besoin d'être sauvé, que Jésus est mort pour moi sur la croix. » Je déclare simplement ceci, que je reconnais qu'il a payé le prix exigé par la loi pour mon péché en versant son sang sur la croix. Et je dis, Seigneur, je te demande pardon. Merci de me sauver. Merci de me pardonner. Dieu l'a fait, vous avez été pardonné de vos péchés, frères et sœurs. Vous êtes entrés alors dans la famille de Dieu, mais vous n'en avez pas fini encore avec le pardon. Parce qu'à partir du moment où vous êtes accepté dans la famille de Dieu, ce que Dieu va se... Je n'irai pas prendre plaisir à faire, mais Dieu, ce que Dieu va s'occuper à faire avec nous, c'est nous apprendre à pardonner aux autres comme lui-même nous a pardonné. Et c'est à travers les épreuves des uns et des autres qu'on vit qu'on apprend à pardonner. Parce que le test du pardon, c'est un test aussi qui va nous permettre de vérifier dans notre cœur si on est né de nouveau ou si on n'est pas né de nouveau. Il y a une différence entre ne pas vouloir pardonner et ne pas pouvoir pardonner. Ne pas vouloir pardonner, il n'y a pas un chrétien qui ne peut se permettre, digne de ce nom, né de nouveau, qui peut se permettre de ne pas vouloir pardonner. Par contre, la blessure peut être très profonde et c'est possible qu'au moment même, il ne peut pas pardonner parce que son cœur continue à saigner. Mais un chrétien ne peut pas dire en lui-même, « Je ne lui pardonnerai jamais. » Le mot « jamais » devrait être banni du vocabulaire des chrétiens. Ne pas vouloir pardonner, ce n'est pas chrétien, c'est diabolique. ne pas pouvoir pardonner, c'est humain. Et Dieu restaure. Dieu pense nos blessures. Dieu guérit pour nous amener à pouvoir pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. C'est ce que Jésus nous a enseigné dans le Notre Père. Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons les dettes que les autres ont envers nous. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons les péchés que les autres ont commis envers nous. Une fois que vous faites partie de la famille de Dieu, une fois que vous êtes sauvé, une fois que vous êtes né de nouveau, vous devez apprendre à pratiquer le pardon envers tous. Parce que si vous ne le faites pas, frères et sœurs, vous allez empêcher Dieu d'exercer sa miséricorde envers vous. On ne peut s'empêcher d'insister sur l'importance de pardonner. Lorsque vous êtes sauvé, le pardon vous fait entrer dans la famille de Dieu. Mais si par la suite vous refusez de pardonner à quelqu'un qui vous a fait du tort, vous détruisez la communion qui doit régner dans la famille de Dieu. Pourquoi? Parce que vous allez manifester le contraire de ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 31-32. Ce qui va sortir, c'est de l'amertume, de l'irritation, de la colère, des cris et des insultes. C'est tout le contraire de ce qu'un chrétien est. Rappelez-vous, la première personne à qui on le rappelle, c'est à Caïn. Caïn, qui en veut à son frère, quelqu'un rempli d'amertume, qui est rempli de colère, qui est jaloux. Et Dieu lui dit, Caïn, le péché comme un monstre tapis à ta porte, il cherche à te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Et Caïn n'a rien compris, eh bien, sa colère, elle va se terminer par un meurtre. Et c'est ce que Jésus nous rappelle dans le sermon sur la montagne. Quelqu'un qui se met en colère, il compare ça à un meurtre, parce qu'on ne sait pas ce que la colère peut nous amener à faire. J'aimerais partager avec vous trois choses pendant ces deux semaines. On va en regarder les trois quarts d'une ce matin, étant conscient du temps. Mais j'aimerais regarder ensemble les arguments irréfutables en faveur du pardon. J'aimerais qu'on regarde ça ensemble. Pourquoi devrions-nous pardonner? Permettez-moi de vous donner quelques éléments. Le tout premier élément, c'est celui que j'appelle le facteur grâce, c'est-à-dire parce que Dieu nous a fait grâce. Amen. On se doit de pardonner. Je pense que c'est un argument irréfutable. Le premier argument, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Relisons encore une fois Éphésiens chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pourquoi je devrais vous pardonner si vous péchez contre moi? Parce que Dieu m'a pardonné lorsque je péchais contre lui. Pourquoi je devrais vous pardonner si vous péchez contre moi? Encore une fois, parce que quand je péchais contre Dieu, il m'a pardonné. Dans son amour manifesté à la croix dans la personne de Jésus-Christ, Dieu nous a pardonné. Il nous a librement et gratuitement et volontairement pardonné. Nous appelons cela la grâce. Frères et sœurs, le non-pardon et l'amertume, c'est comme un cancer qui ronge, qui nous ronge de l'intérieur. Ça fait longtemps que je n'ai pas raconté cette histoire, je vais la raconter, parce qu'il y a plusieurs nouveaux. Lorsque j'étais à l'armée du salut, au service d'aide à la famille, il faut que je regarde où je suis rendu, sinon je vais être perdu. Voilà. Là, j'ouvre une parenthèse, donc il faut que je sache comment revenir avec la parenthèse. Lorsque je travaillais à l'armée du salut, au service d'aide à la famille, je suis dans mon bureau, je reçois les gens, les colis, établir leur budget, ainsi de suite, pour être capable d'évaluer leurs besoins. J'ai ma secrétaire qui arrive en courant, qui me dit, « Capitaine, j'ai une personne au téléphone qui veut se suicider. » Alors, je prends le téléphone et j'écoute. Alors, elle avait pris simplement le nom de l'armée du salut au hasard. Donc, on était dans la première armée. Donc, elle est tombée sur le premier numéro de téléphone, elle m'appelle. Je ne la connais pas, je n'ai jamais entendu parler. Elle me dit, « Oui, je t'appelle parce que je veux me suicider. » Alors moi, je suis au bout de la ligne, hein, j'écoute, je dis oui, et puis pourquoi? Tu n'as pas à savoir pourquoi, je sais simplement te dire que je vais me suicider. Alors moi, je risque le tout pour le tout. J'ai dit, écoute, j'aurais aimé ça avoir quand même rencontré une seule fois dans ma vie une personne qui ose avoir le courage de me dire au téléphone qu'elle veut se suicider. Donne-moi ton adresse. Ben, je lui donne mon adresse. Raccroche la ligne. Une demi-heure après, ma secrétaire arrive en courant, tout énervé, elle me dit, capitaine, la femme que vous avez au téléphone tout à l'heure, elle est là. Alors, je vais la chercher, je la fais passer dans mon bureau. Et là, cette personne, elle me raconte sa vie, mais quel désastre, quoi. À partir de 5 ans, son père abusait d'elle. de toutes les manières que vous pouvez penser. À 18 ans, elle est partie. Elle a vécu dans la débauche, tant avec les hommes qu'avec les femmes, tant dans la rue. À partir de 14 ans, elle a commencé à boire sa caisse de... Au Québec, on dit une caisse de 24 par jour. Vous savez ce que ça veut dire, une caisse de 24 bouteilles de bière par jour. À un moment, je l'ai rencontrée, elle buvait deux bouteilles de whisky plus une caisse de 24 par jour. Elle dit, je viens vous voir, elle dit, parce que j'ai une cirrhose du foie, je suis condamnée, j'ai 36 ans. Et là, je suis à mon bureau, je suis comme ça, je me dis, j'ai fait la faculté de théologie, mais là, Seigneur, tu vas m'aider parce que je ne sais pas quoi dire à cette femme-là. Et elle me racontait sa vie. Et c'était atroce ce qu'elle vivait. Je me disais, est-ce que moi, j'aurais supporté tout ce qu'elle a vécu? C'est une femme, quand je la regardais, qui s'était laissée aller. Pourquoi se laisser aller? Pour que son corps ne soit pas désirable auprès des hommes, parce que son corps l'avait fait souffrir depuis l'âge de 5 ans. Et elle me dit, qu'est-ce que tu ferais, toi? Elle me raconte ça a pris au moins une heure, j'écoutais. Elle me dit, qu'est-ce que tu ferais, toi? C'était à ma place, tu ne tuerais pas. J'ai dit, moi, je pardonnerai à mon père. Je pensais qu'elle était pour me massacrer, quoi. J'ai dit, oui, j'ai dit, écoute, ton père a tiré son plaisir de 5 ans à 22 ans avec toi. Lui, c'est un malade, il a besoin de soins. Lui, il ne se sent pas coupable. Lui, ça n'empêche pas de dormir. Il n'a pas sombré dans la boisson ni dans la drogue. Il n'a pas vécu dans la débauche. Toi, tu souffres. Alors, tu vas pardonner à ton père. Ça, c'est la première étape. Et je lui avais dit ça. J'ai dit, écoute, ce n'est pas la boisson qui est en train de te tuer. C'est le non-pardon et l'amertume que tu as envers ton père qui est en train de te tuer. La cirrhose du foie, c'est juste un signe extérieur de ce que tu n'es pas capable de pardonner. Alors là, elle pète un plomb, elle pète un câble, je la laisse décompresser. Et elle me dit, et puis, qu'est-ce que tu en penses? Je lui dis, non seulement tu dois pardonner à ton père, parce que toi, tu dois aussi pardonner. Tu dois aussi demander pardon à Dieu. Ah! C'est moi la victime et tu veux que je demande pardon à Dieu? Oui. De 5 ans, écoute, de 5 ans, 18 ans, je comprends que tu étais forcé d'avoir des relations avec ton père. Mais de 18 à 22 ans, il n'y a personne qui te forçait. C'est parce qu'à travers ce que tu m'as raconté, tu as fini par trouver ton plaisir avec ton père. Tu as péché, tu devrais demander pardon à Dieu. Elle m'a regardé. Elle pleurait. Et je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas fait de psychologie avec elle ni de thérapie, parce que je ne savais pas si je la verrais une autre fois. Je l'ai amené tout de suite à la croix. Tout de suite à la croix. J'ai dit, écoute, tu sais que Jésus est mort sur la croix? Elle me dit, oui. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, Jésus, pour qu'on puisse le clouer sur une croix? Elle m'a dit, écoute, à ma connaissance, il n'a rien fait de mal. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il a dit à la croix? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ton père, tu vas lui pardonner parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. J'ai dit, maintenant, écoute, je t'offre de demander pardon à Dieu, de pardonner toute la saleté que ton père t'a fait, la misère que ça t'a provoqué durant ta vie. Et je te demande de donner ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Lui seul peut te guérir. Il y a eu un combat de 15 minutes. Elle était de l'autre côté du bureau. Et j'ai dit, est-ce que tu es prêt? Je lui ai rappelé deux, trois fois, je lui ai ramené ces paroles-là, à la croix. Je lui ai ramené ces paroles-là. Je lui ai dit, est-ce que tu es prêt? Elle m'a dit, oui, je suis prêt maintenant. Et en larmes. On s'est pris les mains. Et là, on a prié ensemble. Je dis, répète après moi cette parole de repentance. On va prier. Et elle pleurait. Et elle pleurait. Elle est partie. 3 mois après, je suis dans mon bureau. Et qui voit arriver une dame. Complètement transformée. Je ne la reconnais pas. Elle m'a dit, vous me reconnaissez? Non. J'ai dit, il faut vous présenter. C'est la première fois que je vous vois. Elle avait fondu, complètement, mais transformée. Elle m'a dit, je suis la dame qui est venue vous voir il y a 3 mois et qui a fait cette prière avec vous. Pour vous encourager, je viens simplement vous dire que le Seigneur m'a guéri de ma cirrhose du foie. Frères et sœurs, le non-pardon et l'amertume, c'est comme un cancer qui ronge. Il y a des gens qui sont malades dans ce monde parce qu'ils sont incapables de pardonner. Il y a des gens qui sont malades psychologiquement, émotivement, physiquement, parce qu'ils sont incapables de pardonner. Et nous avons un Dieu de pardon. Je ne suis pas en train de dire, en parlant du pardon, que Dieu tolère le péché. Absolument pas. Rappelez-vous, la prostituée, Jésus lui a dit, « Va et ne pêche plus. » Mais le cœur de Dieu n'est que pardon. Si ce n'était pas le cas, il n'y aurait aucune espérance pour aucun être humain sur cette terre. Et encore moins pour le chrétien qui continue à baigner dans le péché quand il a accepté la grâce de Dieu. Frères et sœurs, quel Dieu merveilleux nous avons. C'est Christ qui libère. Cette croix, elle est puissante. Et pour ceux qui rejettent cette croix, c'est vrai que c'est une folie. Mais pour les autres, quelle délivrance. Quelle espérance éternelle, frères et sœurs. J'ai lu cette histoire concernant ce qui est arrivé à un jeune employé travaillant dans une entreprise en pleine croissance aux États-Unis, qui s'était approprié plusieurs, frauduleusement, plusieurs milliers de dollars. Quelque temps après, on découvrit ce qu'il avait fait, et il fut convoqué au bureau de son directeur. Il savait que ses jours étaient probablement comptés et qu'il était convoqué pour être congédié sur le champ. Le cœur lourd, il pénétra dans le bureau du directeur. Celui-ci le regarda droit dans les yeux et lui dit, « Est-il vrai que vous avez commis ce genre de délit? » L'employé baissa la tête et dit, « Oui, c'est vrai, je l'avoue, je suis coupable. » Le directeur lui dit, « J'aimerais vous poser une question. Si je devais vous pardonner et que je vous laissais le poste que vous occupez présentement, est-ce que je pourrais vous faire totalement confiance à l'avenir que vous seriez honnête? » L'employé répondit, « Monsieur le directeur, si jamais vous me pardonniez et que vous me donniez une autre chance, je serais le meilleur employé que vous n'avez jamais eu. » Dieu notre Père, si tu m'accordes une chance dans ma vie, ce privilège de pouvoir être pardonné de tous mes péchés, je te fais la promesse que je serai un de tes meilleurs enfants dans la génération dans laquelle on vit. Parce que plutôt que de me condamner, tu m'auras fait la grâce de me pardonner. Amen. Le directeur lui dit, jeune homme, vous êtes pardonné, mais avant que vous partiez, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas le premier employé dans cette entreprise qui a commis une telle erreur. Il y a plusieurs années déjà, alors que j'étais un jeune employé, j'ai fait presque exactement la même chose que vous. Et le directeur de l'époque m'a accordé la miséricorde. Il m'a pardonné. Et la miséricorde qu'il a démontrée à mon égard, je la manifeste envers vous aujourd'hui. Que Dieu puisse avoir pitié de nous deux. Frères et sœurs, la même miséricorde que Dieu vous a accordée quand vous l'avez rencontré, c'est la même miséricorde que l'Évangile nous invite à faire auprès des uns et des autres qui nous font du tort, qui nous font du mal. Et c'est comme ça qu'on finit à force de pardonner. C'est comme ça qu'on commence à se rapprocher de la croix et à ressentir ce que Jésus a vécu sur la croix. Quand vous voyez ce qu'il a subi, lui qui n'a jamais péché, comment a-t-il pu prononcer ces paroles, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Dans ma compréhension humaine, je ne comprends pas qu'il ait lancé cette phrase. À moins d'avoir un cœur, le cœur uniquement que de pardon. Et Jean chapitre 3 nous dit que le Seigneur Jésus a été envoyé sur la terre non pas pour juger le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour que le monde puisse trouver le salut en lui. C'est cet esprit que nous retrouvons dans Éphésiens chapitre 4, verset 32. « Soyez bons les uns vers les autres, compatissants. Qu'il est difficile d'aller voir un frère et de lui dire, « Mon frère, je te demande pardon, j'ai manqué d'amour envers toi. » En disant des choses qui n'étaient pas édifiantes à ton égard. Combien il est difficile. C'est plus facile de le confesser à Dieu. Hein? Ben oui, Dieu est tellement loin pour certains, tellement loin. Mais de le dire à mon prochain qui est mon frère en Christ, je demande pardon parce que j'ai pensé du mal de toi. Je demande pardon parce que j'ai dit du mal de toi. Je demande pardon parce que j'ai agi mal envers toi. Que c'est difficile. Et le cœur de Dieu n'est que pardon. Vous pensez que ça a été facile pour Dieu d'entendre cette prière de Jésus sur la croix? Vous pensez que Dieu était indifférent dans le ciel, les bras croisés, qui voyait son fils saigner des pieds, de la tête? Les mains, que Dieu avait les bras croisés et qu'il se réjouissait. Je m'adresse à tous les papas et toutes les mamans aujourd'hui. Si vos enfants vous font du mal, Pensez à ce que Dieu a pu ressentir sur la croix et priez le Seigneur, il connaît votre souffrance. Il a souffert quand il a vu son fils sur la croix être pratiquement assassiné par des pécheurs. Le cœur de Dieu n'est que pardon, frères et sœurs. Le pasteur Adrian Rogers a toujours conservé une lettre que lui avait remis un frère de son église parce que cette lettre avait été écrite par une femme qui a fait un court séjour à l'hôpital. Voici ce qu'elle a dit, écrite dans sa lettre. « Pasteur Rogers, je vous écris parce que je ne sais pas à qui m'adresser. J'habite la région de Rome, en Georgie. Je suis hospitalisé parce qu'on a dû m'opérer de toute urgence. J'avais besoin qu'on me donne du sang et la banque de sang était en pénurie de sang. Elle ajoute, deux jeunes dans la vingtaine de votre église sont venus à l'hôpital et ont accepté de donner leur sang pour moi. Ils ne me connaissaient pas et je ne les connaissais pas. Je ne connais même pas leur nom et je ne les ai jamais vus. Mais j'aimerais vous faire connaître le petit mot qu'ils ont laissé sur ma table dans ma chambre. Voici ce qu'il y avait décrit sur le bout de papier qu'ils ont déposé dans la chambre de cette femme. Nous avons donné notre sang parce que Jésus a donné le sien pour nous. N'est-ce pas magnifique, frères et sœurs? Nous vous avons donné du sang parce que Jésus a donné son sang pour nous. Elle écrit, je ne savais même pas quoi penser et je ne connais même pas le nom de ces deux jeunes parce qu'ils n'ont pas laissé leur nom. Nous avons donné notre sang parce que Jésus a donné le sien pour nous. Chers amis, nous pardonnons aux autres parce que Dieu nous a pardonnés. Une des raisons pour laquelle nous pardonnons, c'est le facteur grâce, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Nous pardonnons non seulement parce que Dieu nous a fait grâce, mais nous pardonnons aussi parce que nous ne voulons pas être trouvés coupables devant Dieu de ne pas avoir pardonné et être ainsi rejetés par lui. Remarquez ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. Alors, je me suis peut-être trompé là. Ah, c'est bon, c'est bon. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Condition. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Condition. Jésus dit ici que celui qui refuse de pardonner détruit le pont sur lequel il voyage et que celui qui est animé d'un esprit de non-pardon est impardonnable. Pardonner et être pardonné sont deux choses qui vont ensemble. La seule personne qui peut se permettre de ne pas pardonner, c'est celle qui n'aura jamais besoin d'être pardonnée. La seule. Remarquez ce que Jésus dit dans cette prière. « Père, pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons. » Chers amis, si vous n'avez pas tendance à pardonner à quelqu'un qui vous a fait du tort, le Notre Père est une prière que vous ne devriez jamais faire parce que Jésus est en train de dire dans cette prière que si vous demandez à Dieu de vous traiter, parce que vous demandez à Dieu de vous traiter comme vous traitez les autres. C'est ça en fait, hein? Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons aux autres. « Seigneur, traite-moi comme je traite les autres. » C'est ça la prière, hein? « Père, pardonne-moi de la même façon que je pardonne aux autres. » À quoi pensez-vous lorsque vous priez? Est-ce que vous dites, « Père, je ne vais pas pardonner à cette personne, alors je ne me pardonne pas. » C'est ça, hein? Ou est-ce que vous dites, « Père, je vais lui pardonner, mais je ne veux rien savoir de lui. » Dieu vous répond, « OK, moi aussi, je te pardonne, mais je ne veux plus rien savoir de toi. » Elle est puissante, cette prière-là, hein? C'est une prière écuménique, entre guillemets. Mais quand vous commencez à gratter, à groupier ce qu'elle signifie, elle est conditionnelle. Hein? Père, pardonne-moi comme je pardonne aux autres. Ça veut dire quoi? Seigneur, traite-moi comme je traite les autres. Seigneur, je suis en colère contre quelqu'un qui m'a fait du mal. Seigneur, sois en colère contre moi. Est-ce que vous réalisez ce que vous êtes en train de demander? Père, pardonne-moi de la même façon que je pardonne à ceux qui ont péché contre moi. Puis-je vous rappeler, chers amis, que quelqu'un qui a un esprit de non-pardon perd non seulement une bénédiction, mais c'est un grave péché d'orgueil qui fait partie de la même catégorie que celui de blasphémer le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, la nature de Dieu, c'est de pardonner. C'est la nature même de Dieu. Nous sommes heureux que Dieu soit un Dieu qui pardonne. Nous sommes tellement heureux de cela, frères et sœurs. Eh bien, si vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas de la même nature de Dieu. Et si vous n'êtes pas comme Dieu, qu'est-ce que vous faites? Vous faites quelque chose qui est diabolique. Un esprit de non-pardon, c'est diabolique. Voici quelque chose d'extrêmement... C'est terrible. Dieu ne refuse pas son pardon à quiconque le lui demande. Qui suis-je, moi, pour refuser à quelqu'un de lui pardonner? Je me place au-dessus de Dieu. C'est un blasphème. Jésus illustre ce principe dans une parabole. Allons, si vous le voulez. Ça va, ce matin, il est tôt. Allons, si vous le voulez bien, dans Matthieu chapitre 18, versets 23-24. Il veut nous montrer c'est quoi le pardon. Et je trouve que Jésus, il choisit bien ces choses. Frères et sœurs, pendant que vous tournez, hein, si je n'avais pas compris le pardon dans ma vie, je suis un gars qui se serait tiré il y a plusieurs années avec son arme de service. Je viens d'un milieu ouvrier, je viens du milieu le plus criminalisé à Montréal. J'ai été abusé de toutes les manières possibles. Mais j'ai compris le pardon de Dieu. Et je n'ai pas eu besoin de thérapie pour ça. Son sang m'a délivré, son sang m'a purifié. Et il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Il n'aurait pas fallu me présenter un psychologue. Moi, je me moquais des psychologues. J'en avais rien à cirer des psychologues. J'étais une tête dure, un entêté, prédisposé à la délinquance. Mais c'est le pardon qui est le miracle. C'est le miracle, c'est le pardon. Une fois dans ma vie, j'ai voulu retenir mon pardon. Ça m'a donné un cancer, j'ai compris. Vous voulez rester en santé, videz votre cœur à Dieu et pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Parce que souvent, ils ne savent pas ce qu'ils font. Aveuglés par l'esprit du malin, croyant faire la volonté de Dieu, c'est ça qui est pire. Matthieu chapitre 18, verset 23-24, voulant parler du pardon, Jésus va illustrer cela de la manière suivante. Il commence ainsi. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Retenez bien ce chiffre, frères et sœurs, 10 000 talents. Ce n'est pas par hasard que Jésus parle de 10 000 talents. Retenez bien ce chiffre. Voici un roi qui décide de régler ses comptes avec ses serviteurs, décide de faire l'inventaire de ses comptes. Parmi ceux-ci se trouve un homme qui doit 10 000 talents au roi. Il est écrit, verset 25, « Comme cet homme n'avait pas de quoi rendre cet argent, son maître ordonna alors de le vendre comme esclave et de vendre aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possédait afin de rembourser ainsi sa dette. » Si on fonctionnait comme ça aujourd'hui, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de monde qui serait endetté, n'est-ce pas? Quand tu n'es pas capable de payer ta dette, on te vend, toi, ta femme, tes enfants, je pense qu'il y en a qui s'endetteraient beaucoup moins. Le serviteur, on continue, verset 26, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, prends patience envers moi. » Et je te paierai tout. Et nous verrons que c'est par orgueil qu'il parle ainsi, parce qu'il n'y avait aucun moyen pour lui de rembourser cette dette. Ému de compassion, verset 27, le maître de ce serviteur le laissa aller. Il lui remit la dette. Le laisser aller signifie en grec qu'il le libéra de sa dette. Faisons attention maintenant de ne pas passer à côté de ce que Jésus veut nous faire comprendre dans cette parabole. Concentrons-nous sur les paroles prononcées par Jésus ici. Lorsqu'il parle d'une dette de 10 000 talents, il est en train de parler d'une dette énorme, voire même impossible de rembourser. À cette époque, un talent était la plus grande valeur monétaire connue dans le monde romain. Et la recherche que j'ai faite mentionne que cela correspond au salaire de 10 000 hommes pendant une période de 17 ans. 10 000 talents. Si nous convertissons aujourd'hui ce montant en euros, cela correspond à des centaines de millions d'euros à rembourser. Lorsque le roi Salomon a construit le temple, il est écrit qu'il a utilisé 8 000 talents d'or. Et Jésus dit ici qu'il doit 10 000 talents au propriétaire. En fait, le mot « talent » signifie littéralement ici un montant impossible à définir, impossible à évaluer. Il arrive parfois que la Bible traduise le mot « talent » par myriades, des myriades d'anges, qui est un chiffre astronomique. Cet homme est donc tellement endetté qu'il lui est impossible de rembourser cette dette. Et pourtant, le roi lui pardonne. Et à ce moment-là, frères et sœurs, quand je dis qu'un pardon coûte quelque chose, Parce que le roi lui pardonne, ça va lui coûter 10 000 talents, ce roi. J'efface ta dette. Je te libère de ta dette. Je te libère de la puissance du péché. J'efface ton péché. C'est ce que ça a coûté à Dieu. Qu'est-ce que ça a coûté à Dieu pour effacer notre dette? Qu'est-ce que ça a coûté à Dieu pour nous libérer de notre dette? La vie de son Fils, ça a coûté cher, frères et sœurs, à Dieu, pour nous pardonner. Incroyable, n'est-ce pas? C'est pas en argent que ça lui a coûté, pas 10 000 talents. Ça lui a coûté la vie de celui avec qui il était depuis toute éternité. Vous réalisez la valeur qu'on a au prix de Dieu. Vous réalisez le prix que vous avez au prix de Dieu, frères et sœurs. Cet homme est donc tellement endetté qu'il lui est impossible de rembourser cette dette et pourtant le roi lui pardonne à ce moment-là la dette et cela lui coûte 10 000 talents. Qu'arrive-t-il par la suite? Regardez, Jésus continue. Si vous continuez à lire, vous découvrez que cet homme qui avait été pardonné rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait de l'argent. Regardez au verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Regardez ce qu'il fait avec. Il le saisit et il l'étrangle en disant, « Paye-moi ce que tu me dois. » Le mot « cent deniers », frères et sœurs, ici représente une journée de travail plus ou moins, un peu moins qu'une centaine d'euros. Il est écrit qu'il le saisit à la gorge et qu'il le serrait au point de l'étouffer en disant, « Paye-moi ce que tu me dois. » Voici un homme qui vient d'être pardonné d'une dette de plusieurs myriades. Voici un homme qui devait rembourser des millions. Et à qui des centaines de millions, à qui on va aller effacer la dette, qui rencontre quelqu'un qui lui doit une centaine d'euros et qui le saisit à la gorge au point de l'étouffer et qui lui dit « Rembourse-moi ce que tu dois. » Que dit ensuite Jésus, verset 30? Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant « Prends patience envers moi, je te paierai. » Qu'est-il écrit au verset 30? Mais l'autre ne voulut pas. Et il le fit, au contraire, jeté en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Frères et sœurs, à l'époque, il n'y a pas d'aide sociale, il n'y a pas de chômage. Quelqu'un qui est en prison, il lui était impossible de pouvoir rembourser une dette puisqu'il est en prison. Il ne peut pas travailler pour rembourser la dette. Ça veut dire qu'il est coincé à demeurer en prison jusqu'à ce qu'il meure. Vous vous imaginez le premier serviteur qui doit des centaines de millions d'euros. S'il s'en va en prison avec sa femme, ses enfants ne pourront même pas travailler pour lui pour le faire sortir, ni sa femme. Ils sont condamnés, lui et toute sa famille, à passer jusqu'à la fin de ses jours son temps en prison. Frères et sœurs, si Dieu ne nous pardonne pas en Jésus-Christ, avec les centaines, les dizaines, voire peut-être des milliers de péchés dépendant d'un grand, petit et moyen pécheur, nous sommes tous condamnés à passer l'éternité dans la prison éternelle que Dieu a préparée pour ceux qui rejettent son pardon. Saisissez-vous ici ce qui se passe. Voyez le lien que Jésus est en train de faire. Jésus va parler de la méchanceté de cet homme qui a été pardonné, alors qu'au verset 25, il parle d'un roi très dur et d'un homme qui avait été pardonné. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et il ajouta au verset 35, regardez ce qu'il dit au verset 35, frères et sœurs. « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère. » Ne pardonne pas à son frère. Frères et sœurs, je te pardonne. Regardez la suite. « Ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Facile de pardonner avec la langue. Et ça vient d'ici, hein? Il faut que ça vienne d'ici, il faut que ça sorte pour ne plus jamais revenir. Mais la langue, c'est du camouflage. Hein? Combien de gens qui m'ont dit dans ma vie qu'ils m'aimaient et qu'ils me détestaient? La langue, hein? Ils ne parlaient pas avec leur cœur, ils parlaient avec leur langue. Hein? En fait, ils ne disaient pas ce qu'ils pensaient. Et on peut parler souvent, si ça ne vient pas du cœur, en disant des choses qu'on ne pense pas. Mais c'est ce qui vient du cœur qui compte pour le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus est en train de nous enseigner ici? Il est en train de dire qu'il est vraiment méchant et scandaleux pour ceux d'entre nous qui avons été pardonnés un si grand prix de refuser d'accorder notre pardon à quelqu'un d'autre. Y a-t-il quelqu'un qui vous a fait du tort, vous qui avez été pardonné, et à qui vous refusez de pardonner? Auriez-vous oublié que c'est pour vous que le Seigneur a versé son sang sur la croix, payant ainsi la dette de votre péché et pour laquelle vous étiez condamné à mort? Est-ce que vous vous rappelez ce qui est écrit dans Jacques chapitre 2, verset 13? Jacques chapitre 2, verset 13, pour ceux qui ont leur Bible. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. En d'autres mots, heureux ceux qui ont pitié des autres, car Dieu aura pitié d'eux. Pourquoi dois-je pardonner? J'ai besoin de pardonner parce que Dieu m'a fait la grâce de me pardonner lorsque je lui ai demandé pardon. Remarquez bien ceci. Je pardonne, Dieu m'a pardonné lorsque je lui ai demandé pardon. J'ai besoin de pardonner parce que je ne veux pas être trouvé coupable devant Dieu de ne pas avoir pardonné. J'aurai encore besoin d'être pardonné jour après jour. Et seule une personne qui n'a jamais péché peut se permettre de ne pas pardonner, c'est-à-dire personne. Le 7 octobre dernier, c'est-à-dire cette semaine, un diamant rose appelé Fancy Vivid. C'est un diamant rose, apparemment que c'est dans les grosses pointures de diamants. De 8,41 carats à l'éclat et à la pureté exceptionnelle, a été abjugé à Hong Kong au prix record de 14 millions d'euros. J'ai vu le dessin. J'ai vu la pierre, en fait, sur Internet. C'est pas plus gros qu'une pièce de 20 cents. Et ça vaut 14 millions d'euros. L'acheteur qui a acheté connaissait le prix d'un diamant rose, une pierre qui a une grande valeur à ses yeux. Et il n'a pas hésité à en payer le prix parce que j'ai lu que sur le marché après, quand il va l'avoir vraiment bien peaufiné, il va pouvoir en tirer 100 à 120 millions d'euros. Connaissez le prix, la valeur de cette pierre, il l'a achetée. Tourne avec moi dans Ésaïe, on va terminer avec ça. Dans Ésaïe, chapitre 43. Ça faisait partie de ma lecture cette semaine. Je ne lirai pas tous les passages, mais je vais simplement regarder rapidement avec vous ce que j'ai retenu. Vers chapitre 43, verset 1. « Celui qui t'a formé, un petit peu plus loin, je te rachète. Celui qui t'a formé te rachète. » C'est Dieu. « Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Le Seigneur nous connaît, il nous connaît par nos noms. Il dit « Tu es à moi. » C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Verset 3. « Car je suis l'Éternel ton Dieu, ton Sauveur. » Verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, pas parce que tu m'as honoré, parce que tu es honoré de ma part et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie, frères et sœurs. Je donne Jésus-Christ à ta place. Il donne sa vie pour toi. Verset 7, regardez ceux qui lui appartiennent. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, fils de Dieu, enfant de Dieu, fille de Dieu. Je les ai créés pour ma gloire. Extraordinaire! Dans un français qu'on parle aujourd'hui, c'est que je les ai créés pour partager ma gloire. Je les ai créés pour co-régner avec Jésus-Christ dans le royaume de Dieu. Je les ai créés pour qu'ils soient co-héritiers de tout ce que j'ai donné à Jésus-Christ. Extraordinaire! Verset 11. C'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a envoyé son Fils Jésus-Christ nous sauver. Amen. Et ça termine verset 14. Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur. Ainsi parle celui qui vous a pardonné et qui a dû payer un prix énorme pour vous accorder ce pardon. Quel Dieu nous avons, frères et sœurs. Pardonner, c'est effacer une dette. Pardonner, c'est renoncer à demander en retour. Je l'ai dit tantôt, Je te pardonne si tu me donnes ceci, je te pardonne si tu me fais cela, je te pardonne si tu fais telle chose. Ça, c'est du chantage, ce n'est pas du pardon. Et il y en a combien dans les couples qui fonctionnent comme ça? Tu vas avoir ci, donne-moi ça, sinon tu ne l'auras pas. Ça, ce n'est pas du pardon, c'est du chantage. Tu vas avoir ce meuble-là, bien fais-moi ci. Du chantage. Ce n'est pas du pardon, c'est du chantage. Et c'est diabolique. C'est ce que Dieu a fait pour nous, frères et sœurs. Il nous a pardonné, il a payé le prix. Il a renoncé à nous punir en effaçant notre dette, la dette de notre péché. Et il a lui-même payé cette dette en versant le montant exigé. Pour sa propre loi, Dieu a dû obéir à sa loi. C'est un Dieu saint. Et la loi disait, le péché mène à la mort et sans effusion de sang, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché qui est effacé. Il n'y a pas de pardon possible. Et voici que Dieu envoie l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde. Et voici le prix à payer. C'est Dieu lui-même qui décide dans son amour de payer le prix du pardon et d'effacer la dette à quiconque demande pardon. Frères et sœurs, une fois que vous vous rendez compte de tout ce qu'il en a coûté à Dieu de vous pardonner, vous serez tenus comme dans un étau, contraint par l'amour de Dieu à pardonner de tout votre cœur à votre tour à quiconque vous aura fait du tort. Merci pour le Seigneur qui ne fait pas de favoritisme. Merci pour le Seigneur, pour ce Seigneur qui ne rejette personne qui vient à lui. Peu importe la couleur de notre peau, peu importe la langue que nous parlons, Dieu nous connaît par notre nom, dit Isaïe 43. Et Dieu nous a créés pour sa gloire, que nous puissions partager l'éternité avec lui. Si dans cette salle ce matin, il y a des gens qui ont du non-pardon dans leur vie, je vous invite après ce culte, appelez par téléphone, si la personne est trop loin, appelez par téléphone et dire, écoute, voici ce que tu me fais dans ma vie. Tu m'as fait tellement souffrir. Eh bien, je te pardonne. Vous savez ce que vous faites? Vous prenez le baquet là, qui est sur votre... Vous prenez ce mètre cube de béton qui vous écrase depuis des années, vous transférez sur l'autre. Qu'il accepte ou non votre pardon, c'est son problème, mais vous venez de vous débarrasser d'un énorme fardeau. Un énorme fardeau. Et si c'est quelqu'un de l'assistance, allez le trouver après le culte, demandez-lui pardon. Parce que le Seigneur nous pardonne comme nous pardonnons aussi aux autres qui nous ont offensés. Amen. Je vous invite à vous lever. On va terminer ce culte en chantant la